Est-ce qu'on peut célébrer la résurrection ensemble? Vous savez, il y a des ovations qui se donnent dans des salles de spectacle ou dans des salles sportives, des arénas, des stades. Est-ce qu'on peut donner une ovation pour le miracle des vies transformées? Bienvenue et joyeuse Pâques, bienvenue à vous ici à Nouvelle-Vie sur nos 10 sites partout à travers le Québec, partout à travers la francophonie. Bienvenue à toi de l'autre côté de ton écran. Personne ici n'est là, n'entend ce message par hasard. Il y a un rendez-vous divin. Dieu a un message pour toi ce matin. La résurrection, c'est quand Dieu dit « Je vais venir sur terre afin de mourir pour les péchés de toute l'humanité et prouver que je suis Dieu. » En ressuscitant le troisième jour, ça devient l'événement le plus significatif de l'histoire. Tellement significatif que l'histoire humaine entière est séparée d'un avant et après Jésus-Christ. Tous les grands, tous les rois, tous les grands, tous les empereurs, tous les plus grands événements du monde doivent s'aligner avec le fait qu'il y a un avant et un après Jésus-Christ. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça, mais à chaque fois que tu vois une date, que tu écris une date, si aujourd'hui, le 31 mars 2024, c'est ton anniversaire, aujourd'hui, c'est le 31 du mois de mars de l'an 2024, après Jésus-Christ. Il y a un avant et un après dans l'histoire humaine, mais non seulement dans l'histoire humaine, mais comme on vient de voir avec ces témoignages et aussi ce matin, avec près de 1 milliard de chrétiens évangéliques sur la terre, combien d'entre vous peuvent témoigner? L'avant et l'après n'est pas seulement dans l'histoire, il y a eu un avant et un après Jésus-Christ dans ma vie. Il a changé ma vie. J'aimerais que quelqu'un qui célèbre la résurrection puisse l'applaudir ce matin. Il est la résurrection et la vie. Je voudrais vous parler quelques minutes ce matin de ce que j'appelle les paradoxes de la résurrection. Le mot paradoxe veut dire perspective contraire aux vues communément admises, être chose ou fait qui paraissent défier la logique parce qu'ils présentent des aspects qui peuvent sembler contradictoires. Et la perspective communément admise dans la province de Québec et dans beaucoup de nations francophones, mais dans la province de Québec, sur la foi chrétienne, ou sur avoir la foi, ou sur l'Église chrétienne, être chrétien, la chrétienté ressemble étrangement à ce pont à Baltimore cette semaine qui s'est effondré. On a tous vu avec horreur la scène d'horreur du pont qui s'effondre. Et lorsque j'ai vu tomber cette tragédie, il y a là-dedans pour moi, il y a un message, un signe. C'est comme une représentation de ce qui est arrivé à la foi chrétienne au Québec dans les derniers 50, 60 ans, de génération en génération. Le pont de la religion a tellement déçu qu'il n'y a plus de pont pour des générations. Maintenant, il n'y a comme plus de pont entre la population, entre les hommes et Dieu. La religion est oubliée. Alors ce matin, je veux vraiment être clair avec chacun, chacune. Nous ne sommes pas ici pour te présenter une nouvelle religion ou un changement de religion ou un nouvel type. Nous sommes ici pour te présenter une relation personnelle avec Jésus crucifié, ressuscité, qui vient vivre dans des cœurs et qui change les vies. Alors, j'ai une question pour toi ce dimanche de Pâques. Dans quel esprit es-tu venu ici aujourd'hui pour entendre pour cette réunion? Il y a toutes sortes de raisons de venir à l'église le dimanche de Pâques. Peut-être que tu as été invité par une belle fille. C'est possible. Peut-être que ta mère t'a forcé. Peut-être que ton mari t'a tiré ou ton épouse t'a tiré. Peut-être que c'est la tradition à Pâques. On y va. Au moins, peut-être qu'on c'était la condition pour avoir le repas cet après-midi. Quelles que soient les raisons pour lesquelles je connais des parents qui sont prêts à beaucoup de choses pour que leurs enfants viennent à l'église le dimanche de Pâques. Alors, quelles que soient les raisons, Victor Hugo a beaucoup écrit sur les paradoxes. Puis il disait, les gens abordent les paradoxes. Il y a deux types de personnes, deux types d'esprits de ceux qui, face aux paradoxes, il les appelait dans le langage de l'époque, Victor Hugo disait, il y a des esprits justes, puis il y a des esprits faux. Les esprits justes, il parlait d'un esprit ouvert, objectif, sincère, qui est ouvert, qui peut être illuminé. Et les esprits faux étaient les esprits fermés, de mauvaise foi, endurcis, inchangeables. Et Victor Hugo a même dit, c'est une citation, « Les paradoxes ont une clarté qui illumine les esprits justes et égare les esprits faux. Les paradoxes de la résurrection peuvent illuminer ta vie, ton présent et ton avenir en ce dimanche de Pâques si tu ouvres ton cœur. » Alors, dis à ton voisin, je te regarde là, tu as l'air de quelqu'un avec un esprit juste. Allez, dis ça à quelqu'un près de vous. Juste pour clarifier la notion de paradoxe, quelques paradoxes modernes. Juste des paradoxes, c'est perspectives contraires, c'est des choses qui peuvent sembler contradictoires. Par exemple, pour moi, c'est un paradoxe lorsque je suis sur une autoroute et il y a une voie qu'on appelle genre the expressway. Une voie express, et là, il y a un affichage qui arrive, une voie express congestionnée ou au ralenti. C'est un paradoxe, cette express n'est pas congestionnée. Des légumes frais dans la section des produits congelés. C'est un paradoxe. Un café décaféiné. Si tu bois du décaf, va en paix. Mais combien ici, vous êtes comme moi ce matin, je veux de la caféine dans mon café? Je vais recevoir des courriels là-dessus. Là. Un paradoxe que j'ai détesté depuis plusieurs années face à notre équipe de hockey, les Canadiens de Montréal, il y a plein de manchettes. Mot à mot, il y a quelques semaines, après une autre défaite cuisante, la manchette, une défaite avec un air de victoire. Et moi, j'ai dit non, une défaite, c'est une défaite qui est une défaite qui est une défaite. Et tout le monde qui est tanné des défaites crie quelque chose. Des paradoxes. Le paradoxe de l'hôtel de glace du célèbre hôtel de glace suédois à Jugakarvi, qui est un avertisseur de fumée. Le paradoxe vrai, exemple parfait, il a rendu un paradoxe, la page santé des employés de McDonald's, ils l'ont enlevé depuis, a déjà mis en garde contre la consommation d'hamburgers de frites de McDonald's, qui est toxique pour la santé. Et un autre paradoxe intéressant, aux États-Unis, saviez-vous, le livre le plus volé dans les librairies en Amérique, savez-vous c'est quoi? C'est la Bible. Et quelqu'un dirait, pas au Québec en tout cas. Alors, dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'en voler une, il t'en donne une gratuite dans l'espace bienvenu, dans le sac avec du chocolat en plus. Quelques paradoxes en ce dimanche de la résurrection. Voici un paradoxe. La Bible est le seul livre ancien dont l'auteur est toujours vivant. Voici un autre paradoxe. Un chrétien est quelqu'un qui naît deux fois et ne meurt jamais. Une naissance physique, et la Bible dit qu'il y a une naissance spirituelle, ça peut être la tienne ce matin, tu dois naître de nouveau le 31 mars 2024 pour être le dimanche, où tu dis ça, c'était ma date de naissance physique, et voici ma date de naissance spirituelle, et une fois que tu es né de nouveau, tu ne mourras jamais. Cette enveloppe peut s'éteindre, mais il est la résurrection et la vie, et nous entrons dans la résurrection. Quelques paradoxes. Le premier paradoxe que je vais regarder avec vous ce matin, c'est cette phrase très simple. Il faut entrer pour sortir. Il faut entrer pour sortir. Les femmes viennent au tombeau dans Matthieu chapitre 28. Ils arrivent, ils sont absolument, il n'y a aucun doute dans leur esprit que Jésus est mort. C'est trois jours plus tard, ils l'ont vu mourir. Il y a eu le constat, il y a eu la confirmation de décès. Et là, ils viennent pour l'embaumement. Et dans le chapitre 28, le messager du ciel leur dit, ils arrivent au tombeau. Je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'avait annoncé. Venez. Voyez et entrez dans le lieu où il est ressuscité. La Bible enseigne que l'ange a roulé la pierre et Jésus est ressuscité. Par tout ce que j'ai prêché le dimanche de Pâques à travers le monde, j'ai apporté la parole dans une cinquantaine de pays. Et à chaque fois, j'ai demandé pourquoi l'ange a-t-il roulé la pierre. Il y a toujours quelqu'un qui dit pour laisser Jésus sortir. J'aimerais vous dire que Jésus n'avait pas besoin de l'ange pour lui rouler la pierre. Il est le Tout-Puissant. Il tient le monde dans ses mains. Il est le ressuscité. Mais la pierre a été roulée pour que nous puissions entrer, que tu puisses entrer dans la résurrection. Côtoyer des chrétiens, connaître des Écritures, connaître le message, venir à l'église une fois de temps en temps, avoir une maman qui prie pour toi, bien aimer la musique chrétienne ou de temps en temps tirer sur la sonnette d'alarme lorsque tu es mal pris pour demander à Dieu, ne changera pas ta vie. Mais si tu entres honnêtement, sincèrement dans la résurrection, Dieu veut et peut te faire sortir de tes peurs, te faire sortir de ton passé, te faire sortir de tes dépendances, te faire sortir de tes échecs, te faire sortir comme Jésus est ressuscité. Le deuxième paradoxe, c'est que c'est par cet événement du passé que vient l'espoir pour l'avenir. Cet événement qui a pris place il y a 2000 ans, Les historiens nous disent qu'il y avait des milliers de crucifixions. Tu as des milliers d'hommes qui ont été crucifiés à l'époque. Il n'y a aucun nom qui a été retenu. De cet événement qui semble si lointain, en fait, il y a tout un espoir pour nous pour l'avenir. Lorsque Jésus est ressuscité, il a dit à ses disciples, dans Matthieu 28, « Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, et au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous à tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voulez-vous dire à voix haute avec moi « jusqu'à la fin du monde » ? Encore aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, Jésus s'approche de toi. Et il te dit, je suis ressuscité, j'ai tout pouvoir, une puissance, une capacité que tu n'as pas en toi-même. La résurrection rend possible que le ciel, une puissance du ciel qui vient sur la terre, dans ton cœur, dans ta vie, où tu vis, qui t'offre pardon et force et guérison et libération et apaisement et un espoir pour renverser tes anxiétés, tes déceptions, ton désespoir jusqu'à la fin du monde. À notre époque, il y a une compréhension, une réalité qui fait une triste unanimité. Vous demandez à n'importe qui, n'importe quelle culture, il y a un sentiment profond qui nous habite que notre monde est brisé, que le monde dans lequel on vit est brisé. Les sociétés modernes ont laissé à eux-mêmes et rejetant Dieu, s'effritent, se divisent, se déchirent, se détruisent, perdent douloureusement l'espoir pour leur avenir. J'ai lu un article il y a quelques semaines dans la presse qui m'a fasciné. C'était la manchette était littéralement « Que reste-t-il de la vérité? » 1000 scientifiques les plus réputés du monde ont signé une pétition pour sonner l'alerte sur les dangers imminents des avancements fulgurants de l'intelligence artificielle sans balises morales et éthiques qui risquent d'avoir des conséquences terrifiantes sur la manière dont les gens vont construire leur vision du monde. Serge Cabana, chargé de cours en communication rattaché à l'Université de Sherbrooke, dénonce, je cite, « Plus personne dans un avenir si proche ne pourra regarder une photo ou une vidéo en ligne et savoir si elle est vraie ou si elle est fabriquée. » Il a écrit un ouvrage entier intitulé « Qui me dira la vérité? » où il cite des dizaines d'études mondiales indiquant des taux sans cesse croissants d'anxiété, de cynisme, d'attaque de panique, de dépression, d'épuisement en croissance depuis les dernières 20 années. Il y a un artiste qui est décédé au début du siècle, Paul Gauguin, un peintre qui est mort, décédé en 1903, un peintre célèbre mondialement, qui a été élevé dans les rigueurs religieuses du catholicisme. Il s'en est débarrassé, il a tout balancé, puis il a plongé dans une vie débridée, d'hédonisme, dépravée à Tahiti, en Polynésie française. Il étudie toutes les philosophies toute sa vie et face à la mort, il est de plus en plus angoissé. Et il peint, il y a une toile, son œuvre, sa toile la plus célèbre qui est encore exposée au Boston Museum of Fine Arts. Dans le coin de la toile, il a mis ces trois questions. D'où venons-nous? Que sommes-nous? Et où allons-nous? Des générations entières n'ont aucune réponse à ces questions. Nos jeunes sont élevés, nos milléniaux sont élevés et éduqués à croire qu'ils existent par le résultat du hasard, plus le temps, plus la matière. Avec l'équation absurde et désespérante que rien plus personne égale tout, qu'ils ne sont qu'une collection de molécules en suspension avec aucune destinée ultime au sens profond de leur vie. J'aimerais vous annoncer aujourd'hui que la raison irréfutable de la croissance fulgurante du christianisme évangélique sur la planète Terre, c'est que Jésus est ressuscité et il répond à ces questions existentielles et fondamentales. D'où venons-nous? Tu es une créature de Dieu. Dieu a un plan pour toi, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es venu sur la Terre. Quel que soit ce qui s'est passé avec tes parents, j'aimerais te dire que Dieu a un plan pour toi. Je connais les plans que j'ai formés pour toi, des plans de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Qui sommes-nous? Nous sommes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Imagio Dei, avec un besoin de Dieu. Le philosophe Camus l'a dit de cette façon, il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. Jésus est venu vivre, mourir et ressusciter pour nous réconcilier avec Dieu et nous remplir. Si nous ouvrons notre vie, nos cœurs, de l'esprit de la résurrection, le même esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, veut et peut venir demeurer en nous. Et c'est ce qu'il prend en place lorsqu'on vous voyez un baptême. Jésus a dit, je vais être là jusqu'à la fin du monde et vous allez aller les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon la Bible, ici à l'Église Nouvelle Vie, suivant simplement la Bible, nous ne baptisons pas des bébés. Les bébés n'ont aucune conscience de ce qui se passe lorsqu'il y a un baptême. Dans l'enseignement de la Bible, le baptême était pour des gens qui prennent une décision. Et depuis nos 30 ans, 31 ans, des milliers de personnes qui ont été baptisées à Nouvelle Vie, juste depuis le début de l'année, des centaines de personnes, leur nom qui vont apparaître, leur prénom, juste entre janvier et maintenant, 140 ou plus personnes, une personne. Pourquoi des prénoms? Chaque personne précieuse qui a témoigné, qui témoigne par son baptême, je m'identifie avec Jésus qui est mort pour moi et je ressuscite avec lui et maintenant j'avance dans la nouveauté de vie que Dieu a pour moi. Est-ce qu'on peut applaudir le plus grand de tous les miracles? Le troisième paradoxe, c'est que le lieu de la laideur et de la honte devient la lumière des hommes. La croix, le Golgotha, est un lieu de souffrance, un lieu de laideur. Le contexte de la crucifixion, de la mort et de la résurrection de Jésus est très sombre. On voit toute la capacité humaine de laideur, de méchanceté, de cruauté de l'homme sans Dieu. Lisez les textes autour des évangiles et autour de la mort de Jésus. Il y a de l'injustice. Il y a Hérode et Pilate qui, à nombreuses reprises, vont dire « Nous ne trouvons rien. Cet homme est innocent. On ne trouve rien de mal en lui. » Et la foule qui hurle, la foule assoiffée de sang qui hurle « Donne-nous Barabbas, un meurtrier, mais crucifie Christ. » Lorsque tu lis le récit des évangiles, tout ce qu'il y a autour de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a de la torture, il y a de la violence, des génocides, un suicide. Il y a de la cupidité des puissants, prêts aux pires horreurs pour s'enrichir. Au dépens des vulnérables. Il y a de la haine, du racisme, de la discrimination. Il y a des meurtres insensés, des leaders qui manipulent et dominent avec mensonge par-dessus mensonge et continuent à dominer, à être élus avec mensonge par-dessus mensonge. Et quelqu'un regarderait ça et dirait, bon, mais c'est pas mal comme nos bulletins de nouvelles aujourd'hui. C'est pas mal comme une manchette du monde aujourd'hui. Il y a une obscurité de ténèbres dans notre monde et cette obscurité vient envahir et vient influencer et vient ternir et vient remplir nos cœurs. Dans Luc 23, on nous dit que le jour de la crucifixion de Jésus, il était environ la 6e heure, midi, il y a eu des ténèbres qui sont venues sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, 15 heures d'après-midi. Le soleil s'obscurcit, le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Dans nos vies privées, secrètes, parfois il y a des saisons où le soleil s'obscurcit. Des saisons sombres, des saisons intérieures, quand nous traversons des saisons d'obscurité, de douleur, de déception. Il y a quelqu'un en qui j'avais tellement confiance qui m'a déçu profondément, de trahison, de rupture, de déchirement, de dérive. Lorsqu'on regarde aux nations, notre monde est obscur, notre monde est brisé. De Gaza à la Russie, à l'Ukraine, à notre cher Haïti, aux nations en famine, à la planète qui gémit et qui se dérègle, aux féminicides des féminicides aux millions d'enfants, enfants soldats, enfants violés, enfants abusés, enfants négligés, enfants oubliés. À la laideur des nations. On est capable de voir partout la laideur des nations, l'obscurité des nations. Mais dans la chambre de nos cœurs, dans des moments de lucidité et d'humilité, parfois, on ne voit pas seulement la laideur des nations, mais la laideur en nous. Elon Musk, dans un clip qui en ce moment est viral, faisait une entrevue avec un leader chrétien, et il dit carrément, si Jésus sauve encore aujourd'hui, j'aurais vraiment besoin d'être sauvé. J'aimerais vous dire, nous avons besoin de lumière. Nous avons besoin de lumière. Et le paradoxe de la croix, c'est que le lieu de la laideur et de la honte devient la lumière des hommes. Le vendredi saint, la crucifixion avec son obscurité a rempli la terre. Mais le voile du temple s'est déchiré. Et lorsque Jésus s'est écrié d'une voix forte, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » C'est le Fils de Dieu qui déchire ce qui nous séparait de Dieu et qui vient inonder nos vies de sa lumière, de la lumière qui peut tout changer. Quelqu'un qui a goûté à la lumière de Dieu dit « Amen ». C'est ça qui se passe dans Luc chapitre 24, où le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'ils avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habits resplendissants de lumière, de l'obscurité sur toute la terre. Mais maintenant, c'est la résurrection. Les messagers du ciel arrivent avec resplendissant de lumière et disent, et saisis de frayeur, les femmes baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité et souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je parle à quelqu'un ce matin, n'aie pas peur de la lumière de Dieu. N'aie pas peur de laisser Dieu faire la lumière dans ta vie. La lumière de Dieu n'est pas une lumière pour te condamner, n'est pas une lumière pour te culpabiliser. N'aie pas peur de la lumière de Dieu. Je dirais à quelqu'un d'autre, comme l'ange a dit à ses femmes, je dirais à quelqu'un d'autre, souviens-toi de comment il t'a parlé. Il y a des gens qui entendent ce message ce matin, toi ici dans cette salle ou en ligne, Dieu t'a déjà parlé. Dieu a déjà parlé à ton cœur. Dieu a déjà tendu sa main. Tu as déjà marché avec lui. Ce matin, il t'appelle, il te dit, je t'appelle à ma lumière. Ma lumière est toujours une lumière empreinte de mon amour. Même la naissance de Jésus est annoncée ainsi. Luc 1, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. C'est littéralement les entrailles de la miséricorde. Oublie toute notion d'un Dieu froid et éthérique dans les cieux. Dieu dit littéralement, j'avais tellement mal à l'intérieur de voir l'obscurité dans ta vie, que je viens vers toi à travers mon Fils pour t'offrir la lumière. Jean le dit de cette façon, cette lumière est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Elle éclaire tous les hommes. Elle était dans le monde a été fait par elle, le monde ne l'a pas connue, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais, et des millions le font, mais à ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mis sa confiance en son nom? Enfant de Dieu, non pas de la volonté de la chair, non pas le salut, la naissance que Dieu donne va te permettre de transcender arrière-plan, généalogie familiale, psychologique, mentale, émotionnelle, relationnelle et même spirituelle. Tu peux être né de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir. Je veux te dire, c'est mon verset de vie. Le pouvoir de devenir l'homme que Dieu voulait que tu sois, la femme que Dieu voulait que tu sois, même la personne que tu ne peux même pas imaginer que tu pourrais être. Le pouvoir de devenir. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu l'as accepté ou refusé? Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. C'est un principe de vie paradoxal, mais vrai. La réelle valeur n'est déterminée que par le prix que quelqu'un est prêt à payer. Vous avez entendu ça, c'est la loi du marché. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire, bien, tu fais ta vente de garage, c'est le printemps, tu fais ta vente de garage, puis tu as ton espèce de truc, que ça pour toi c'est tellement extraordinaire, tu mets un collant, une petite étiquette dessus, 100$, et tu appelles les gens, arrive, tout d'un coup, il y a un monsieur qui arrive à 10h le matin, puis il dit, je vais te donner 50$ pour. Et toi, tu es offensé, ça vaut tellement plus que ça. Ous. Mais rendu à la fin d'après-midi, le truc est encore sur la table, puis il y a quelqu'un qui vient, puis il dit, m'a donné 20$, tu dis, prends-le. Ah oui, prends-le. La réelle valeur est déterminée par le prix que quelqu'un est prêt à payer. Et c'est fou ce que dans notre monde, ce que des gens sont prêts à payer. Est-ce que vous savez quel est le café le plus cher au monde? Le Kopi Luwak. 125 à 150$ de la tasse. Mais j'ai goûté, c'était pas mal bon, j'ai pris trois tasses tantôt à ma réunion. 125 à 150$ de la tasse, ça vient des forêts indonésiennes. Et savez-vous comment on trouve les grains? On le récupère, ces grains, des excréments d'un rat asiatique. Dites à quelqu'un près de vous, je vais rester avec le café Tim Hortons. Dites à quelqu'un. J'aimerais te dire, que Jésus-Christ trouvait que tu avais tellement une valeur, que ta valeur à ses yeux était telle qu'il a payé le prix, donné sa vie pour te redonner ton identité en lui. Alors qu'on a cette plaie de vol d'identité, je veux te dire que par l'amour de Dieu, tu peux retrouver une identité en lui que tu ne pourrais même pas imaginer. Alors qu'on arrive à la fin du message, je veux que tu regardes ce témoignage d'une jeune femme de notre église, Angie, qui est entrée dans la résurrection. Et voyez l'œuvre miraculeuse que Dieu a faite dans son cœur.
Je m'appelle Angie, j'ai 34 ans et je suis née en Haïti. À 18 ans, je suis venue ici au Québec et tout allait bien dans ma vie. J'avais des amis, j'avais un chum, par la suite, j'ai eu un enfant. J'ai eu une relation assez stable de 13 ans avec le père de mon fils. J'allais souvent dans les 5 à 7, j'allais dans des bars, je m'amusais, j'avais des amis. Sauf que petit à petit, ma consommation d'alcool a beaucoup augmenté dans cette période-là. Je buvais par pur plaisir et à ce moment-là, je me souviens que j'avais pas conscience de à quel point que je buvais beaucoup parce que je supportais bien l'alcool. Donc pour moi, c'était tout va bien, il n'y a pas de problème et c'est juste que je supporte bien l'alcool. Une bouteille de vin, à peine j'étais pompette, ça aboutit à ce que je prenais une bouteille de vin par jour, tous les jours. Dans les soirées entre amis, on fumait du cannabis jusqu'à ce que, justement, ça empiétait vraiment sur ma vie. Il fallait que je fume, il fallait que je me soulage. Il fallait que je me soulage de ce mal-être grandissant. J'ai été diagnostiquée avec une dépression majeure. Après l'accouchement, là, soudainement, je me vois prendre du poids. On s'est séparés aussi, moi puis le père de mon fils. Alors là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule, désemparée, avec un enfant à charge. J'avais cette boule en moi, boule d'inquiétude, une boule de peur et de stress. Devant toutes les factures à payer, tout d'un coup, je me retrouve toute seule. Il y a eu un shift. Il fallait absolument que je boive, il fallait que j'oublie en fait ma réalité. Je voulais tellement noyer ma peine que tout l'argent que je pouvais mettre de côté, je le réservais pour l'alcool. Donc des fois, quand mon fils était chez son père, donc les semaines où j'étais toute seule chez nous, je préférais rien m'acheter à manger parce que pour moi, faire à manger, c'était une tâche insurmontable. Donc je préférais, au lieu de m'acheter à manger, je préférais aller à la SAQ et m'acheter une bouteille de vin. Un jour, j'étais couchée chez nous dans le salon, j'étais toute seule, mon fils n'était pas là. J'ai fait ce constat et je me suis dit, je n'aime pas qui je suis présentement. Et à ce moment-là, j'ai une image dans ma tête de la Bible ouverte devant moi, comme ça. Puis je comprends que c'est dans la Bible que je vais trouver toutes les réponses que je cherche. J'ai toujours cru en Dieu, mais je ne croyais pas en Jésus. Et ensuite, je vois Jésus sur la croix. Et en ayant cette image de Jésus sur la croix, j'ai compris à ce moment-là qui était Jésus. J'ai compris le sacrifice qu'il avait fait. J'ai compris qu'il avait pardonné mes péchés. J'ai compris qu'il était mort pour moi à la croix. Et à ce moment-là, j'ai senti un poids me quitter et je suis devenue tellement légère. Et je me suis retrouvée, moi qui étais couchée, je me suis retrouvée à genoux dans mon salon en train de pleurer ma vie, des pleurs de joie, de reconnaissance. J'avais vraiment l'impression que Dieu m'a vue, que Dieu, dans sa bonté, il est venu me tirer de l'abîme. Et je savais qu'à ce moment-là, que ma vie allait changer complètement. Du jour au lendemain, j'avais plus envie de fumer, que ce soit la cigarette, que ce soit le cannabis. Je bois plus, je ne ramène plus de bouteilles de vin à la maison. Et surtout, ce que ça m'a amené, c'est la paix. J'ai une paix profonde, j'ai cette assurance que je ne suis pas seule. Je me sens aussi comme une page blanche. Des fois, je me dis que je ne me reconnais plus, mais en fait, tranquillement, il est en train d'écrire mon histoire. Je sais c'est quoi ma vie sans Jésus. Et aujourd'hui, je sais c'est quoi ma vie avec Jésus. Et je choisirai Jésus encore et encore.
Laisse-moi te partager un dernier paradoxe de la résurrection. C'est que le serviteur offert en sacrifice, Jésus s'est offert à la croix, est aussi le Seigneur qui règne sur toutes choses. C'est le dernier paradoxe que je veux que tu comprennes sur la crucifixion et la résurrection. L'apôtre Jean, dans l'Apocalypse, le mot veut dire dans la révélation, a une révélation de Dieu. Dans l'Apocalypse chapitre 5, où il a dit « Je pleurais beaucoup, que personne ne fut digne d'ouvrir le livre. » Et l'un des vieillards me dit « Ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. » C'est le paradoxe que tu dois saisir qui change ta vie. C'est que Jésus est le lion et l'agneau. Il est le roi des rois ressuscité et puissant. C'est ce que le lion représente bibliquement. Le seul digne d'ouvrir le livre de la vie abondante et de la vie éternelle que Dieu a pour toi. Mais ce livre s'ouvre, ton nom s'écrit dans ce livre, va être pour ceux qui vont reconnaître qu'ils ont besoin de Jésus l'agneau qui s'est offert en sacrifice pour mes fautes, pour mes péchés qui me séparaient de Dieu. Paul l'explique aux Philippiens de cette façon. Jésus existait en forme de Dieu, Philippiens 2, n'a pas regardé comme une proie de s'arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, l'agneau, sur la croix. Pendant des millénaires, des agneaux étaient offerts en sacrifice. Et là, maintenant, c'est lui l'ultime sacrifice. En prenant la forme de serviteur, l'agneau, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, l'agneau qui s'offre, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, un agneau sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ça, c'est le lion. Souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, le lion, afin que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu dois mettre ta foi dans le sacrifice de l'agneau et tu dois fléchir ton genou devant le roi des rois. Il est le lion de toute autorité et puissance, mais il est l'agneau de ton pardon. Il est Jésus crucifié sur la croix, mais il est couronné dans le ciel avec toute autorité. Il est le lion qui a été blessé et brisé pour nous. Il est l'agneau qui a été blessé et brisé pour nous. Mais il est le lion qui a toute autorité, tout pouvoir pour bénir ta vie. C'est important parce que d'un côté, il y a des millions de personnes qui le voient juste comme un agneau, une victime sur la croix. Il n'est pas ça. Il est ressuscité et tu dois fléchir le genou devant lui aujourd'hui. Si tu fléchis le genou devant lui aujourd'hui, tu entres dans la vie abondante et la vie éternelle. Parce qu'il y a un jour qui viendra où ce sera trop tard, où tous, les plus grands, chaque être humain fléchira le genou. Et à ce moment-là, si tu n'as pas fléchi le genou sur la terre, lorsque tu fléchiras le genou, ça sera pour être séparé de lui pour l'éternité. Il est le lion et il est l'agneau. Et de l'autre côté, c'est important parce qu'il y a plein de gens chrétiens qui veulent le lion. Je veux la bénédiction, l'onction. Ils parlent d'onction, ils parlent de puissance, de toutes sortes de choses, de prospérité, toutes sortes de choses. Ils ne sont jamais venus à l'agneau. Ils n'ont pas une vraie repentance où ils regardent à l'agneau, il a donné sa vie pour moi et je dois maintenant le recevoir parce que mes péchés me séparaient de Dieu. Combien savent que lorsque tu connais le lion et l'agneau, ta vie change et tu veux une vie qui va honorer Dieu? Quelqu'un devrait dire oui. Mais Pasteur Claude, qu'est-ce que ça, c'est tout ça, le lion, l'agneau, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui dans la vie de tous les jours? Il y a des moments dans l'Ancien Testament, les théologiens appellent ça des Christophanies ou des Théophanies, des moments où dans l'Ancien Testament, dans le dernier verset du matin, dans Jérémie, 600 ans avant Jésus-Christ, le Seigneur, c'est comme si Dieu veut montrer comment il était tellement, tellement désireux de manifester son plan de rédemption, qu'il y a des moments où est-ce qu'il y a des choses qui prennent place dans l'Ancien Testament qui sont des prémices de ce que Dieu veut faire. Du serviteur, dans le cas présent, d'un serviteur roi. Et dans Jérémie chapitre 38, Jérémie est descendu, il a été pris prisonnier, il est vulnérable, il est abandonné, il est dans une fosse. Et alors qu'il est dans une fosse, nous lisons, ils descendirent Jérémie dans la fosse ou la citerne de la prison. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Dans la Bible, l'eau représente l'eau de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus dit, si tu bois du reste, tu auras toujours soif. Si tu bois de l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Et la boue représente le péché dans la Bible. Tu fais quoi? Fait deux, trois fois que tu dis péché, parce que là, 2024, péché, mets-toi à date. Le péché, savez-vous ce que le mot veut dire? Le péché dans la Bible, le mot veut dire manquer la cible, dépasser la ligne, aller trop loin, briser une promesse jusqu'à tomber. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas? La Bible dit tous ont péché. Ce péché-là me séparait de Dieu. Mais dans la boue, dans la citerne où il n'y avait pas d'eau, il y a un serviteur qui apparaît, il s'appelle Ebed-Mélec, qui veut dire le serviteur roi. Le serviteur roi. J'aimerais dire que Jésus est le serviteur roi. Il vient à la croix pour nous, mais il est le roi ressuscité. Et il dit, il faut le sortir de là, car il mourra de faim là où il est. Et le serviteur roi se rendit où était Jérémie. Il s'arrêta dans un lieu en dessous du trésor. Il en sortit des lambeaux usés, des vieux haillons souillés. Et il dit à Jérémie, « Prends ces lambeaux usés et souillés avec toi, alors que je t'envoie la corde pour te tirer hors de la citerne. » J'aimerais que, comme mon ami s'approche, j'ai un ami qui est là, qui s'approche vite. C'est une scène particulière. Le serviteur roi t'illustre ce que Jésus veut faire. Il vient rejoindre Jérémie là où il est. Le Seigneur vient te rejoindre ce matin là où tu es. Essaie pas de nettoyer ta vie avant de connaître Dieu. Je vais mettre ma vie en ordre, puis après, viens à lui tel que tu es. Même dans la fosse. Il y a des fosses qui sont évidentes, des fosses de solitude, des fosses de dépendance, des fosses d'échec, de tristesse, puis il y a des fosses dorées. Tout le monde est beau dimanche matin de Pâques, tout le monde chaîne, tout le monde est beau, mais à l'intérieur, tu peux avoir une fosse qui est là, qui est intérieure, de solitude, de déception, de doute, d'éloignement de Dieu. Et lorsqu'il arrive pour venir délivrer, Jérémie fait quelque chose de particulier. Il arrête à l'étage supérieur où ils ont une pièce remplie de guenilles souillées. Nous en avons tous. De peine, d'amertume, de tristesse, de déception, d'échec, de blâme. Et lorsque le serviteur roi vient, il lance une corde à Jérémie puis lui dit, prends tout ça. Là. Et plusieurs des commentateurs disent, les vêtements de Jérémie, c'est des vêtements de guerre qui ont été perdus, des vêtements usés, des vêtements de fatigue, des vêtements de déception. Et c'était probablement les vêtements de Jérémie qui étaient là aussi. Il lui dit littéralement, je te lance la corde, mais je ne te sortirai pas seulement pour que tu sois sauvé et que tu continues avec une vie remplie de souillures. Chacune de tes souillures ont été couvertes à ma croix. Et lorsque je te tire hors de la fosse, c'est pour commencer une œuvre où je vais te libérer, je vais te changer, je vais te libérer. Étant quelqu'un de vrai, quelqu'un qui l'a vécu, je vais faire disparaître chaque souillure. Alors, c'est le moment pour toi. Merci, merci. Alors, c'est le moment pour toi. J'aimerais demander à tout le monde, vous avez été super patient de m'écouter, mais c'est un moment d'éternité en ligne et en personne, écoute-moi bien. Ferme tes yeux, est-ce que tu peux fermer les yeux pendant un instant, avant que le tourbillon de la vie nous reprenne, avant qu'on parte et on retourne dans la vie. Ce matin est un matin préparé pour toi. Ce matin, le Seigneur tend sa corde, Jésus, c'est lui, tend la corde pour te sortir de la fosse. Puis il te dit, donne-moi tout, amène tout, amène toutes les choses qui sont en lambeaux. Amène les divorces et amène les douleurs et amène les déceptions et amène les dettes et amène les regrets. Amène toutes les linges, tous les lambeaux. Amène-les. Parce qu'ils vont sortir avec toi. Je vais t'en libérer. Je vais t'en purifier. Je vais t'en soulager. Je vais t'en guérir. Alors, si vous êtes ici ce matin, toutes les têtes sont penchées. Et toi aussi en ligne parce qu'il n'y a pas de distance. Il n'y a rien. Quel que soit le moment où tu vas voir ce message, tu m'entends en ce moment, Dieu te parle à ton cœur et t'a mis devant cet écran pour ce moment. Et toi aussi, ici à Longueuil, il t'a amené ici pour ça ce matin. Alors, si vous êtes ici, tu es ici ce matin, tu dis, je veux entrer, moi, dans la résurrection. Je connaissais, c'est vrai, je connais l'Église, je connais des gens, j'ai été touché, j'ai pleuré, mais c'est mon moment ce matin. Je veux reconnaître mon besoin de Dieu. Je veux reconnaître que mon péché me sépare de Dieu. J'ai manqué la cible. Je suis allé trop loin. J'ai dépassé la ligne. Ce matin, c'est mon moment. Je veux entrer dans la résurrection. Je vais vous demander, là où tu es, de juste lever ta main et dire, « Me voici, Seigneur, je suis rentré ce matin. » Wow! Wow! Il y a des gens partout qui lèvent la main en ce moment. Chaque main compte, chaque personne compte, chaque nom, chaque vie, il sait tout de toi. Si tu es ici, tu dis, « Je reconnais que j'ai péché. » Si péché, c'est manquer la cible, c'est dépasser la ligne, c'est briser une promesse, c'est tomber dans une fosse, j'ai péché. Ce péché-là me sépare de Dieu et je veux venir à lui. Je le vois, je le reçois comme mon Seigneur, mon Sauveur. Le sacrifice est pour moi. J'ai besoin de sa lumière. Je vis des choses sombres. J'ai vécu des choses sombres, comme les témoignages que vous avez vus à l'écran. Il y a eu des saisons sombres et des choses sombres que j'ai faites, qui m'ont été faites. ce matin, je veux venir à sa lumière. Je viens à sa lumière, je veux recevoir la lumière. La lumière est venue, et à ceux qui l'ont reçue, et à ceux qui ont cru en Jésus, il va donner le pouvoir de devenir. Ne te limite pas même à ce que tu as été, ce que tu as connu, même ce qu'on a dit de toi, ce qu'on a prononcé sur toi. Non! Dieu veut te donner le pouvoir de devenir ce que lui a préparé pour toi, la vie qu'il a préparée pour toi. J'ai été et je suis dans une fosse, mais je veux prendre cette corde qu'il m'attend. Je n'ai pas la folie, je n'ai pas l'orgueil de repousser la main de Dieu tendue vers moi. Je n'ai pas la folie, l'orgueil de refuser son amour, sa résurrection, son sacrifice, son salut. Ce matin de Pâques 2024, c'est mon jour. Je fléchis le genou devant lui. Je demande à tout le monde de se lever. On va se lever ensemble. Tout le monde se lève ensemble en sa présence. Et c'est un moment tellement important. Jésus a dit, si tu as honte de moi devant les hommes, tu me renies devant les hommes, tu seras renié devant le Père. Mais si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant le Père. J'ai toute depuis plusieurs semaines en prière pour ce moment. Une vision dans mon esprit de plusieurs qui ont déjà connu Dieu ou tes parents sont chrétiens. Ou, mais tu as besoin d'un moment, tu as besoin d'un jour et c'est ce matin de Pâques 2024 où tu t'avances, où tu fais un pas, où tu viens et tu dis, me voici, j'entre dans la résurrection. Je donne ma vie à Jésus, j'accepte le Seigneur, je vais vivre pour lui. Ou tu vas dire, j'ai traversé ces zones sombres, mais ce matin, je viens pour recevoir sa lumière, crois sa lumière. Je viens prendre la corde, il va me sortir de la fosse et de l'obscurité. Et pendant que l'équipe d'adoration vont chanter ce chant magnifique, tel que je suis, sans rien à moi, au moment où ils commencent à chanter, j'aimerais t'inviter à t'approcher, à sortir de ta place et à venir me rejoindre ici à l'avant. Je voudrais te conduire dans une prière. Et cette prière-là va être le commencement de ta vie nouvelle, ta commencement. Peut-être que tu as besoin de revenir à Dieu, de venir pour une première fois officiellement dire, je n'ai pas honte, je viens donner ma vie au Seigneur. Les témoignages t'ont donné un espoir. Est-ce que ça peut changer dans ma vie à moi aussi? Oui! Il est la résurrection et la vie pour toi. Alors, pendant que l'équipe commence à le chanter, j'aimerais t'inviter là où tu es. S'il y a quelqu'un qui est avec toi, qui a besoin de venir ou revenir au Seigneur, accompagne-le, on force personne. Mais dis-lui, si tu veux, je vais, j'y vais. On avance ensemble et on vient dans les bras de Dieu. Les bras de Jésus sont ouverts. Il est la résurrection et la vie. Et pendant qu'on chante, tel que je suis,